Je voudrais juste prier un petit temps. Alléluia, Papa, nous te louons vraiment pour ta présence. Nous te louons pour ton esprit qui est au-dessus de nous, qui est en nous, qui est autour de nous, qui nous enveloppe. Merci que nous savons que nous baignons dans ton esprit ce matin, que tu es là. Merci pour les anges. Merci pour le ministère des anges auprès de chacun de nous. Merci parce que tu es en train d'agir et d'œuvrer. Merci parce que tu as donné des ordres à des anges afin qu'ils agissent dans nos circonstances familiales, afin qu'ils te glorifient dans nos vies. Dans nos maisons, dans nos pensées, dans nos êtres entiers. Merci pour les anges qui sont en train d'agir maintenant. Seigneur, nous libérons l'œuvre des anges maintenant dans le nom de Jésus. Simplement dans le nom de Jésus, je libère l'œuvre des anges qui est en train de se faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Parce que tu as dit, Seigneur, tu as donné des ordres à tes anges. Et Seigneur, nous libérons le travail des anges. Merci de ce que tu es en train de faire. Merci pour les miracles qui sont en train de s'accomplir. Merci parce que quand nous rentrerons et nous verrons dans cette semaine les choses que tu as accomplies. Seigneur, nous proclamons que c'est des temps où tu te glorifies. Parce que Seigneur, tu veux pas que nous restions un pays pauvre spirituellement, tu veux que nous devenions riches. Et Seigneur, nous proclamons que tu as commencé et que tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Je te demande vraiment grâce, Seigneur, pour ce temps. Alléluia. Amen. J'ai bien aimé ce que Luc a dit par rapport à la famille nucléaire. Parce que qu'est-ce que c'est que le nucléaire? C'est une énergie qui est dans l'atome. Qu'est-ce que c'est que l'atome? C'est nos familles. Les atomes, ce sont nos familles. Il y a une énergie fantastique dans nos familles. Et l'ennemi le sait. Et qu'est-ce qu'il a œuvré? Il a œuvré pour la fission nucléaire, c'est-à-dire pour la division dans la cellule familiale, pour qu'il y ait séparation entre papa et maman, entre les enfants et les parents, entre les enfants et les enfants. Il œuvre dans la direction de la fission nucléaire et c'est une énergie énorme. Quand il réussit à commencer à faire cette œuvre de fission, on sait tous que la fission nucléaire libère une énergie énorme, énergie de colère, d'amertume, de rancune, de haine, et qui peut aller jusqu'à des séparations graves. Mais vous savez qu'il y a une énergie qui est plus grande que la fission nucléaire? Laquelle? La fusion nucléaire. La fusion nucléaire, elle est des millions de fois plus grande que la fission nucléaire. Je sais plus, je n'ai pas été voir, donc je sais que c'est énormément beaucoup plus grand. Je me sens que c'est au moins des milliers, mais même peut-être des millions. En tout cas, c'est beaucoup plus grand. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train d'agir dans le sens de la fusion nucléaire, de rapprocher les familles, à l'intérieur des familles, de rapprocher les parents, de rapprocher les enfants. Et on doit rentrer dans ce mouvement de Dieu, y croire, y le parler, y l'agir, et proclamer que Dieu va libérer une énergie énorme dans notre nation au travers des familles. Et l'éducation nationale, l'éducation chrétienne, pardon, ne s'adresse pas qu'aux enfants, elle s'adresse à des famille. Amen. Que l'éducation chrétienne devienne une éducation nationale. Merci. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on pourrait prendre, on va continuer donc sur le thème de la louange. Dans Hébreux 13, 15, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Nous cherchons celle qui est à venir et nous croyons qu'elle veut s'implanter déjà dans nos nations. Car nous, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et donc moi, ce qui m'a arrêté, c'est le mot sacrifice. Et effectivement, des fois, on a l'impression que quand on dit sacrifice de louange, ça veut dire que je loue, même quand c'est difficile. Je vais apporter mon petit sacrifice au Seigneur. Ma transpiration, je fais mon effort à Dieu, c'est mon sacrifice. Et on pense que du coup, ça va être agréable à Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai, je ne dis pas que c'est complètement faux, mais je crois que le sacrifice va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est que le mot sacrifice dans la parole? C'était ce qu'apportaient les sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y avait eu mort d'un animal. Il y avait du sang qui coulait par litre, des flots de sang. Et ce sang devait couvrir. Et quand le sacrificateur amenait le sacrifice, le Seigneur pouvait agréer, il pouvait expier le péché, il pouvait couvrir. Il pouvait accepter le peuple et rester en relation et continuer à bénir le peuple. Et sacrifice, donc, nous fait penser à sacrificateur. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on apporte un sacrifice de louange? C'est pas tellement parce que c'est difficile, c'est parce qu'on est des sacrificateurs. C'est parce que nous sommes sacrificateurs que nous pouvons amener un sacrifice de louange. Et le sacrifice de louange, je ne crois pas que le Seigneur il nous demande qu'il soit difficile ou dur ou forcé, ou dans la sueur, ou triste, où je fais mes efforts. Je pense que la louange, c'est quelque chose qui est dans la joie. plus notre joie est grande, plus la louange, elle va détonner, elle va amener du fruit et le Seigneur va être glorifié. Je pense que nous devons nous battre, non pas pour amener notre louange, mais pour que nous acceptions d'être dans la joie, pour que refuser tout ce qui veut nous voler notre joie dans la louange. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous voler la louange, et surtout la joie, qui veulent nous empêcher d'être vainqueurs dans la louange, d'être complet, total dans la louange. Il y a plein de choses qui veulent nous maintenir toujours la tête sous l'eau, et le Seigneur il dit, viens avec ton sacrifice de louange, viens parce que tu es sacrificateur et que ta louange soit éclatante, que ton métier de sacrificateur soit total. Tu es un sacrificateur, que ta sacrificature soit pleine et entière. Viens, tout entier. Et tout ce qu'il voudrait, quand on va au boulot, qu'est-ce qu'on dit souvent? Quand je suis au boulot, il y a des choses que je n'amène pas de la maison. Quand je suis sacrificateur, je ne dis pas qu'il y a des choses que je n'amène pas de la maison. Je dis que tout est placé sous le sang de Jésus, que tout est racheté par Jésus et je suis vainqueur. Et je viens non pas écrasé par mes circonstances, mais je viens en dominant et en étant maître dans les circonstances et je rentre pleinement dans mon, quel est le mot qu'on pourrait dire, dans mon office, dans mon travail, dans mon œuvre de sacrificateur. Je deviens pleinement sacrificateur. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre 2,9 ? Nous sommes une race, premièrement une race élue. Une race élue. Vous savez qui est-ce qui étaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament? Qui est-ce qui pouvait être sacrificateur? C'était les descendants d'Aaron. Et la parole nous dit que Aaron avait été choisi par Dieu. Et toute sa descendance, du coup, elle était choisie avec Aaron. On n'était pas sacrificateur parce qu'on l'avait bien voulu, parce que j'ai postulé, parce que on m'a trouvé que j'étais quelqu'un de bien, ou parce qu'on a dit, ah, celui-là, il a tous les talents ou la compétence. On est sacrificateur parce qu'on est né dans la famille des sacrificateurs. Tout simplement, tu es né dans la famille, tu es sacrificateur. Tu l'es tout simplement parce que tu es descendant de qui? Descendant de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit qu'on est une nouvelle race. Regardez dans 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Adam a engendré toute une race. Il est le premier homme, Adam, et il est la tête de la race, le premier homme de la race. Toute la race vient de lui. Et par contre, il y a un deuxième Adam, un dernier Adam, qui est devenu un esprit vivifiant. S'il a appelé Adam, c'est parce qu'il a fait la même chose qu'Adam. Il est la tête d'une nouvelle race. Le premier homme d'une nouvelle race. C'est une race. Adam a créé une race qui est, excusez-moi le mot, animal, c'est-à-dire qu'elle vit de l'âme. C'est tout ce qui est psychique, tout ce qui est physique. Ça, c'est tout ce qui est né d'Adam. Tout ce qui est né de Jésus, c'est ce qui est de l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit, c'est un esprit vivifiant, c'est un esprit de vie. Ah, Jésus est la tête d'une nouvelle race. Nous sommes une race élue, la race de Jésus. Nous appartenons à une nouvelle race. Ensuite, on est un sacerdoce royal, des sacrificateurs qui sont en même temps rois. Ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs. C'est étonnant parce que le Seigneur, il a créé plein de choses dans la parole et dans la nature qui nous expliquent quelle est la relation qu'il veut avec nous. À un moment donné, Dieu se révèle comme un père. Il se révèle comme Dieu. Il se révèle comme roi. Il nous apprend la relation qu'on a avec lui. Et là, la relation qu'on apprend avec Dieu, c'est celle du sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait le sacrificateur? Si on prend dans Deutéronome 18, Deutéronome 18, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc les sacrificateurs, les Lévites, avaient une charge importante. Ils devaient porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, se tenir devant Dieu pour le servir et bénir le peuple. Il y avait des choses importantes dans la sacrificature. Ils venaient devant Dieu. Il le servait, il portait l'arche de l'Alliance et il bénissait le peuple. Ça veut dire que les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance sont appelés à faire la même chose. Ils portent l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est l'Arche de l'Alliance ? Elle comportait les lois, les tables de l'Alliance, les tables de la loi, et le bâton de Moïse qui avait fleuri. Ça nous parle de Jésus. Ça nous parle de Jésus qui est la parole et qui est aussi l'arbre de vie, qui donne la vie. Et Jésus, il habite dans nos vies, il est en nous, dans nos cœurs. Nous sommes la maison de l'Esprit, la maison de Jésus. Et la Bible nous dit que nous le portons. Nous portons l'Arche de l'Alliance, nous portons la présence de Jésus dans nos vies. Partout où tu vas, ce n'est pas quand tu viens simplement à l'Église qu'il y a l'Arche de l'Alliance, qui est la présence de Dieu. L'Église, elle est dans chacune de nos familles. Comme Manuel a dit, chaque fois que deux ou trois se rassemblent, il y a l'Église. L'Église est là. Jésus est là au milieu d'eux. Et là où tu vas, c'est même à toi tout seul déjà, quelqu'un disait, chaque membre de l'Église est un implanteur de l'Église. Ça veut dire qu'il importe l'Église avec lui. Partout où tu vas, l'Église, elle va. L'Arche de l'Alliance, tu la transportes sur ton dos, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme. L'Arche de l'Alliance est avec toi. Elle est en toi. C'est Jésus lui-même, avec la parole et avec l'Esprit de vie. Et c'est John Lewis qui nous rappelle ça, que l'Arche de l'Alliance était portée par des barres. Ils portaient des barres en bois. Et ces barres en bois que portaient les sacrificateurs nous parlent de notre langue, notre bouche. Elles nous rappellent que la langue est comme une mèche qui allume un feu. Elle allume un feu. Notre bouche, elle est capable, comme dit Jacques, d'allumer un feu destructeur, un feu qui fait mal, ou un feu qui apporte la vie, le feu de l'Esprit. C'est le feu quand on bénit, quand on parle des promesses de Dieu. Regardez dans Psaume 100. Comment le Seigneur nous demande de venir dans sa présence. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Vous notez avec l'allégresse. Hein. Venez avec allégresse en sa présence. Que notre sacrifice de louange soit dans l'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom. Notre bouche est appelée à proclamer des louanges, à proclamer la gloire de Dieu. Elle sert de barre, elle sert pour porter la présence de Dieu. Quand je commence à parler, quand je commence à louer, quand je commence à chanter en langue, à parler en langue, quand je commence à proclamer la parole de Dieu, les versets de la parole, quand je commence à proclamer qui est Dieu, qui est Jésus, ce qu'il a fait, quand je proclame mon identité, je mets quelque chose en route. Je commence à allumer quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre. C'est un feu qui est en train de prendre vie doucement. L'Arche de l'Alliance commence à se lever. La présence de Dieu commence à descendre sur l'Arche. Ma vie, on est une nation qui est très silencieuse dans beaucoup de domaines. Il y a des domaines où on aime bien parler, il y a des domaines où on se tait. On fait silence. Ce qui a été dit aux Ménonites, souvent taisez-vous, c'est vécu dans nos propres vies. Spirituellement, on n'ose pas trop parler. On est muet. Souvent, on prie à l'intérieur de nous-mêmes. Je prie en moi. Je dis les choses en moi. Et la bouche, elle a appris à se taire. On doit devenir une nation qui parle beaucoup plus, qui commence à dire les choses, à proclamer, à crier, à chanter, que notre voix soit entendue. Amen. Et on parlait par rapport, pendant la formation de louange des jeunes, On a une nation qui n'a pas appris à chanter. Quand vous allez en Suisse, c'est les chorales de chanteurs, ils n'ont pas besoin d'instruments. Vous avez toutes les voix, les ténors, les sopranes. C'est naturel. Dès enfant, tout le monde apprend sa voix. Il sait chanter, il sait placer sa voix. Et dès qu'ils chantent ensemble, ils chantent en chorale. Tous. Vous allez en Allemagne, je crois que c'est pareil. Et nous, on n'a pas appris à chanter. On n'ose pas chanter. On ose à peine parler. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? On a peur du propre son de notre voix. Est-ce que ça, vous avez déjà vécu ça ? Quand on doit parler, j'en ai discuté déjà avec des ados, quand on discute avec eux, ils n'osent pas parler, ils n'osent pas prier, ils n'osent pas faire entendre leur voix, ils n'osent pas chanter. Ça, c'est quelque chose que l'ennemi a mis comme un poids. Et ça, c'est en train de sauter. Et nous croyons vraiment que le Seigneur veut ouvrir nos bouches soient entendues, que nos langues parlent. Et cela va commencer dans notre vie personnelle avec Dieu. Quand tu es dans ton temps avec Dieu, fais-le à voix haute. Parle à voix haute. Crie si tu le veux, chante. Mais on doit tous l'apprendre. On doit allumer ce feu qui commence à démarrer et qu'ensuite il se répande dans nos maisons, dans nos familles. et que dans l'Église, toutes les voix soient entendues. À nos jeunes, que vos voix soient entendues et qu'elles partent, que vos voix soient entendues plus que les nôtres et qu'elles aillent plus loin que les nôtres, plus fort, avec plus de sagesse et d'intelligence, au nom de Jésus. Nous avons un puits d'eau vive en nous. Il y a un puits. Il y a un verset dans la parole qui dit « Monte, puits, que les princes ont creusé avec leurs bâtons. » Il y a un puits qui a été creusé dans nos vies. Et le prince qui a creusé ce puits, c'est l'Esprit de Dieu. Avec ceux qui nous ont enseignés, ceux qui nous ont formés, ils ont creusé un puits en nous. Et le Seigneur a déversé de l'eau. La présence de sa parole et la présence de son esprit et l'eau de sa parole sont comme des puits d'eau vive en nous et qui attendent de jaillir. Et ça commence par nos bouches. Et on prend nos bâtons. Quand je vois les bâtons qui sont là au milieu, ce n'est pas que des bâtons de guerre. Ce n'est pas que des bâtons d'autorité, ça l'est, c'est tout ça. Et c'est aussi les bâtons pour nos propres vies, pour que des bâtons commencent à recreuser le puits de la présence de Dieu en nous, afin que tout ce qui est boueux, afin que tout ce qui est pierreux, tout ce qui est sableux, commence à partir, à s'en aller, et que l'eau qui est là en nous commence à remonter dans le puits. Elle monte, et elle commence à sortir. Et laissez sortir cette eau qui monte. Ne la retenez pas. Sachez que c'est l'eau de l'Esprit, c'est les fleuves de Dieu que Dieu veut couler, ne vont pas seulement venir d'en haut, ils doivent venir aussi d'en bas. Ils viennent de nos vies, ils viennent des sources que Dieu a placées dans notre nation, ils viennent des sources que Dieu a placées dans nos vies et des sources qui doivent encore couler d'en haut. C'est tous des eaux qui se rencontrent et qui créent un fleuve. Vous en êtes participants. Amen. Alléluia. Nous entrons dans sa présence, nous l'adorons. Nous écoutons sa voix, c'est ce qu'on est en train d'essayer vraiment d'apprendre de plus en plus, à entendre sa voix, à être dans la communion avec Dieu, communion avec le Père, le Fils et l'Esprit, en tant que sacrificateur aussi, en tant que celui qui est, c'est son appel, c'est sa destinée. Je suis un sacrificateur, je suis là pour ça, je suis créé pour ça, pour ce temps avec Dieu dans sa présence, pour être en communion avec mon Père, avec le Fils, avec mon frère, avec l'Esprit. Je suis créé pour ça, c'est mon appel, c'est ma vie tout entière. Tout le reste passe après ça, parce que je suis d'abord un sacrificateur. Je suis ce sacrificateur que Dieu appelle, et j'ai été choisi pour ça. Je suis là, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a voulu. Nous, on accepte d'y rentrer. C'est vrai qu'on a le droit de refuser. Mais personne ne peut venir si Dieu ne l'a appelé, si Dieu ne l'a choisi. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Tu es sacrificateur parce que tu as dit oui au Seigneur. Tu es rentré dans ce travail. Et c'est un travail sans transpiration. Ce n'est pas tes efforts, parce que le Seigneur, il dit, efforcez-vous d'entrer dans mon repos. Travaillez pour entrer dans mon repos. C'est parce que Jésus a tout fait. C'est parce que toute la vie est déjà là. Plus je la reçois, plus je la crois, plus j'y marche et je le vis. Et bénir. Nous bénissons. Le sacrificateur est appelé à bénir. On en a déjà souvent parlé. Et chaque fois qu'on prend un sujet, le Seigneur nous ramène toujours à la bénédiction. Le sacrificateur, c'était son travail. Sacrificateur, tu fais ton travail, tu es payé pour ça. Hein, il était payé, le sacrificateur. Il avait même pas le droit quasiment d'avoir des champs, un petit peu. Mais sa vie, son travail, c'était de s'approcher de Dieu et de bénir. Il bénissait le peuple, il bénissait l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous qui habitez dans son temple. Vous les sacrificateurs, bénissez l'Éternel. Vous qui vous tenez dans la maison de Dieu, bénissez l'Éternel. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Bénissez. Et de nouveau, nos bouches sont appelées à s'ouvrir. Le son de notre voix est appelé à être entendu. Bénis l'Éternel ton Dieu et bénis le peuple. Bénis le peuple. Et bénis aussi ceux qui ne le connaissent pas. Commence à bénir. Et il y avait encore, on peut dire aussi que le travail des sacrificateurs était en trois parties. Il y avait une partie d'adoration. Ils adoraient Dieu. Mais il y avait une partie aussi d'enseignement. C'est ceux qui étaient appelés à enseigner. On enseigne dans les écoles chrétiennes, mais on enseigne aussi dans tous les centres de formation. On enseigne encore dans nos familles. Les pères, les mères enseignent. En tant que sacrificateurs, ils enseignent. Et nous sommes aussi appelés à enseigner des nations. Le Seigneur Jésus a dit « Faites des disciples des nations ». Ça veut dire « Mettez-les à l'école et commencez à les enseigner ». En tant que sacrificateur, tu es appelé à enseigner des nations. Tu commences autour de ceux qui sont chez toi et tu vas finir dans les nations. Parce que tu es un sacrificateur, tu es un enseignant. Tu as la parole dans ton cœur, tu as l'esprit de vie qui habite en toi. Tu es un enseignant. Ce n'est pas à quelques-uns de le faire, ce n'est pas à certains autres, à certains appels, à certains ministères. Chacun, on est sacrificateur. On est appelé à adorer. On est appelé à bénir. On est appelé à enseigner. Tu as la parole dans ton cœur et dans ta bouche. Dans Romains 8, c'est marqué, la parole de Dieu est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas réservé à certains, c'est ton apanage, c'est ta gloire. Tu es appelé à enseigner des nations. Tu es appelé à parler. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas parler, que ce n'est pas à toi de parler, dis-lui qu'il te ment. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Apocalypse dit, l'a rappelé, Jésus, il a dit à tous ceux qu'il a appelés comme sacrificateurs royaux. Vous savez que dans Exode 19:6, ça vaut la peine de le prendre. C'est Dieu qui parle. Il parle à son peuple, il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Vous avez vu comment Dieu dans vos vies vous a porté sur des ailes d'aigle et il vous a amené vers lui. Toute la gloire de Dieu, il vous a cherché. Il t'a cherché en Égypte. Il t'a appelé, t'a sorti de là. Il t'a amené vers lui sur des ailes d'aigle. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, tu as le choix, tu as toujours le choix d'écouter la voix de Dieu, de rester dans son alliance, de rester dans ce qu'il a fait pour toi, dans son salut, ou d'en sortir. Tu as toujours le droit. Le Seigneur met toujours devant toi un choix. Et il te dit, choisis la vie afin que tu vives. La vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. Tu as toujours ce choix à faire. Mais le Seigneur te conjure, il insiste, il plaide auprès de toi. Choisis la vie. Je veux que tu vives. Je veux que tu accomplisses mon œuvre, que tu sois mon sacrificateur et que tu vois ma gloire dans ta vie. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Le Seigneur a envie d'une appartenance. Il veut que tu appartiennes, que tu lui appartiennes. Il aime ça. Il aime que tu lui appartiennes, que tu fasses partie de lui, de sa famille. Il aime, il t'aime, tout simplement parce que tu lui appartiens. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les peuples ne lui appartiennent pas? Est-ce que quand il dit « je prends un peuple parmi les peuples pour qu'il soit à moi et les autres je rejette » Non. Ça veut dire « je prends ce peuple comme prémisse, comme acompte, comme premier. Je le prends comme signe pour que tous les autres sachent qu'on peut m'appartenir, que je veux qu'on soit à moi. Tous les peuples, regardez, regardez Israël et regardez l'Église. » Il y a un peuple qui m'appartient, c'est ma nation sainte. Regardez comment il continue. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. À qui il parle? Il parle à Israël. Et j'avais jamais fait attention qu'à Israël, il a dit la même chose qu'à nous. Vous serez mon royaume de sacrificateurs. Pourtant, il avait une tribu qu'il avait appelée. Vous êtes mes sacrificateurs, c'est vous. Vous avez mon onction, vous avez l'appel, vous êtes ceux qui devaient être dans ma maison. Vous devez accomplir la sacrificature royale. Les autres, a priori, vous serez dans les champs, vous vous occuperez de vos maisons, vous vous occuperez de vos affaires, de votre commerce, de votre bétail. Non. Vous serez un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Israël a la même promesse que nous. Nous participons à la même promesse. On est conjoints. On est unis dans cet appel. Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Tous les deux, vous formez la nation, nous formons la nation sainte. Et parce que toute la terre est au Seigneur, ça ne veut pas dire, de la même façon que la tribu spéciale, les descendants d'Aaron étaient les sacrificateurs, mais que toute la nation était appelée à être une nation sainte et un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des adorateurs, des gens appelés à bénir, des enseignants, etc. Ainsi en est-il de toutes les nations, de tous les peuples. Ils sont appelés à être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et notre rôle, c'est d'aller et de le leur dire, de les bénir, de les enseigner et d'adorer pour eux. Quand on adore, le Seigneur peut les bénir. Vous savez ce qu'ils avaient, les sacrificateurs de particulier? Qu'est-ce qu'ils avaient qui les rendait forts? Je crois que souvent, quand il y a un groupe de personnes, ce qui les rend forts, c'est l'autorité qui est au milieu d'eux. Ce qui nous renforce, c'est parce qu'il y a une autorité. L'autorité est toujours une bénédiction. C'est une force. C'est une grâce. Merci Seigneur pour l'autorité qu'il a mise au milieu de nous. Avec Luc et Manu, nous sommes bénis. Nous sommes au bénéfice de votre service pour Dieu. Et quelle était l'autorité pour les sacrificateurs? Ils avaient quelqu'un qui était devant eux. Ils avaient quelqu'un qui marchait devant eux, qui les enseignait, qui leur montrait le chemin, qui les rassemblait, qui les unifiait, qui les rendait heureux dans leur service. C'était le chef sacrificateur, le souverain sacrificateur. C'était quelqu'un de particulier, d'à part. Il avait un appel spécial. Même Paul a dit, le sacrificateur, il pouvait le gifler. Mais quand il a su que c'était le chef des sacrificateurs, il a demandé pardon. Parce qu'il y avait un appel spécial, une bénédiction, une onction particulière sur cet homme. Et nous, on est bénis parce qu'on a un souverain sacrificateur. On n'en parle pas souvent et pourtant la moitié des chapitres d'Hébreux lui sont consacrés. La parole de Dieu nous dit qu'on est des sacrificateurs, mais ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers, ce qui fait de nous un peuple à part, c'est pas par nous-mêmes, c'est parce qu'on a un souverain sacrificateur magnifique. C'est lui qui détermine qui on est. C'est lui qui détermine notre ministère, notre vie, notre service. Amen. Je ne sais pas si je vais oser prendre tous les passages, mais il y a plusieurs passages. Dans Hébreux 4:15, on a un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et parce qu'il a traversé les cieux, Dieu nous dit, demeure ferme dans ta foi. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Parce que tu es un souverain sacrificateur. Il t'a montré le chemin. Hébreux 5:15, Jésus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. C'est Dieu qui la lui a donnée. Et parce qu'il a reçu cette gloire de Dieu, il est devenu le prince de notre salut. L'auteur de notre salut, le prince. Il est le prince de ton salut. Ton souverain sacrificateur, c'est un mot particulier. On a du mal à rentrer, mais on doit faire vraiment cet effort parce que ce n'est pas notre culture. Mais de réaliser qui il est en tant que ce chef sacrificateur, ce grand prêtre. Il est devant nous. Il a traversé les cieux. Il a accompli le sacrifice. C'est lui qui s'est offert comme sacrifice. Tout sacrificateur, tout souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu saint. Il avait des clochettes et s'il ne ressortait pas, tout le monde guettait. Ça veut dire que Dieu n'avait pas pu agréer le souverain sacrificateur. Et le nôtre, on sait qu'il était agréé parce qu'il est rentré avec son propre sang. Il a offert le sacrifice, on sait qu'on est accepté. Et maintenant, j'imagine, quand le souverain sacrificateur rentre dans le ciel, qu'est-ce qui se passe avec lui? On est là derrière. Il y a toute une troupe. On est toute la troupe de sacrificateurs. Je pense qu'on doit apprendre à se regarder les uns les autres comme une troupe. Cette troupe de sacrificateurs qui suit le souverain, le grand chef, et qui rentre dans le ciel avec lui, qui traverse les cieux, qui traverse le grand tabernacle, et qui va jusqu'au grand roi, jusqu'au maître de toute la terre. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est là-haut? Il intercède. Il est dans la louange aussi. Je suis sûr que Jésus loue. Il est un adorateur. Il intercède et il bénit. Et quand on rentre dans notre ministère d'intercesseur, nous ne disons pas qu'on est tout seul. On est en train simplement d'intercéder avec la troupe des sacrificateurs et le souverain sacrificateur lui-même. Il avait un éphode. Vous vous rappelez cette robe? Une paroi sur la poitrine. Il portait les noms des tribus d'Israël. Je crois que notre souverain sacrificateur aujourd'hui porte les noms des nations. Il porte les noms des nations sur la poitrine. Il vient devant le Père et il a ton nom à toi. Il a notre nom à chacun et il a le nom des nations. Et il intercède. Et il nous dit, en tant que sacrificateur, accompagnez-moi dans mon intercession. Venez avec moi, intercédez avec moi. Portez le nom. Viens avec ton nom. Viens avec le nom de ta famille. Viens avec le nom de ta ville. Viens avec le nom de ta nation, viens avec le nom des nations et rentre dans ma présence parce que ta sacrificature est précieuse. Et l'Hébreu dit, 8:1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons ce souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Amen, c'est un point capital. C'est un point capital. Qu'on a un souverain sacrificateur qui est dans les cieux, qui intercède pour nous et qui intercède pour les nations. Alléluia, Jésus. J'aurais voulu, mais je ne vous le dirai pas, je vous propose de regarder simplement d'avoir, quand nous louons, quand nous donnons dans la présence de Dieu, de savoir pourquoi nous louons. Souvent, nous louons, mais on n'a plus beaucoup de mots, pas beaucoup de vocabulaire. Et quand vous regardez, par exemple, j'ai noté des passages dans les psaumes, 89, psaume 100, 135, 145, dans Isaïe 25, 27, 35, il y a un encouragement à louer, à bénir et à célébrer le Seigneur. Et il dit « car ». Et ça, c'est recherchons tous ces passages et gardons-les en nous, nourrissons-nous de ces passages de la parole. Et dans Éphésiens 1 aussi, tous les passages que Luc a lus, pour quand on vient dans la louange, qu'on ne soit pas à court de vocabulaire. Qu'il y ait en nous un vocabulaire saint, glorieux, pour louer et adorer. Et Huguette, elle parlait ce matin qu'elle avait ce passage qui disait « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ». Je crois qu'on doit commencer à rechercher ce bouillonnement. Ça rejoint le puits qui bouillait, que je parlais tout à l'heure, qui doit bouillonner. Que ce puits monte, mais qu'il soit aussi nourri des versets de la parole. Que la parole de Dieu commence à nourrir nos entrailles et à nous donner des paroles dans la louange. Que nous ne soyons pas muets, dans le sens où simplement qu'on n'ait pas de mots pour louer le Seigneur. Quelque part, ces mots doivent commencer à venir. Qu'on soit riche des passages de la parole dans nos cœurs et dans nos pensées, afin qu'ils nourrissent notre louange. Et ça rejoint ce que je voudrais dire pour terminer. Vous savez qu'il y a eu un tabernacle, donc il y a eu le tabernacle de Moïse, où les sacrificateurs louaient, servaient par le sacrifice, mais il y a eu un tabernacle spécial de David, où les sacrificateurs, cette fois, c'était des sacrificateurs particuliers, ils ne venaient pas avec des sacrifices, ils annonçaient déjà le tabernacle de la fin des temps, que le Seigneur veut, ce tabernacle de louange, 24 heures sur 24. C'était les sacrificateurs complètement mis à part pour louer 24 heures sur 24. Alors on sait que ce tabernacle a existé, mais vous savez que dans notre nation, il y a eu des centres de louange 24 heures sur 24 qui ont déjà existé. Ça a démarré au 4e siècle, 5e siècle. Je crois que ça a commencé en Égypte, je ne l'ai pas assez noté. Et quelqu'un est venu, il l'a amené en Gaule. Et ça a démarré en face de Cannes sur les îles qui s'appelaient les îles de l'Airain. Il y a eu un centre. C'était un centre d'enseignement de la parole et un centre de louange 24 heures sur 24. Ils adoraient, ils ont loué Dieu pendant des siècles. C'était un centre de louange et d'enseignement de la parole 24 heures sur 24 pendant des siècles. Et ils ont formé, par exemple, un gars qui venait d'Irlande, qui a été kidnappé à l'âge de 16 ans, mis sur un bateau comme esclave, qui s'est converti au Seigneur, qui a pu s'échapper et qui est venu en France pour être formé. Et il s'appelle Patrick. Saint Patrick. Il a été formé dans ce centre de louange et d'enseignement de la parole pendant 2 ans. Il est retourné en Irlande et il a fait ce que la parole de Dieu dit. Il a enseigné une nation. Et il a fait d'une nation un disciple. La nation d'Irlande a été convertie au Seigneur sans effusion de sang, ce qui n'était pas arrivé, il me semble, dans les nations de ce temps-là. Parce qu'il avait grandi dans la connaissance de la parole et dans l'adoration et la louange, dans le sens de bénir, dans le sens d'enseigner la parole. Et il a pu convertir l'Irlande. Et plus tard en Irlande, il y a un autre centre de louange 24 heures sur 24 qui s'appelait Bangor. Peu de temps après la mort de Patrick. Dans ce centre de louange, ils ont formé un apôtre qui s'appelle Colomban. Colomban est venu avec 12 autres apôtres en Gaule. Il est venu à Luxeuil, tout près d'ici. Et il a démarré un centre de louange 24 heures sur 24 à son tour. Et ils ont adoré Dieu pendant des siècles, non, peut-être moins longtemps que l'autre, mais pendant moins des dizaines d'années, ils ont loué Dieu. Il y a eu un centre d'enseignement et de louange. Et de là, ils ont transformé la Gaule. Colomban a transformé la Gaule, a transformé la Germanie, et il en a formé encore d'autres. Et d'autres avec lui sont partis en Suisse. C'est de là qu'est né tout le mouvement apostolique qui a transformé la Gaule à ce moment-là. Et il y en a aussi un qui est venu de Luxeuil, qui s'appelle Pirmin, qui est venu ici jusqu'à Bergholtzell. Cell, ça voulait dire tente. C'était une tente parce qu'il s'était arrêté là, une cellule. C'était une cellule de ces moines qui étaient arrivés là pour chercher un endroit pour louer Dieu et implanter un nouveau centre. Ils ont été jusqu'à Murbach, ils ont fait un centre de louange 24 heures sur 24. Ça revient à notre verset du début. Offrons un sacrifice de louange. Et qu'est-ce que vous savez ce que dit le verset ? Offrons sans cesse. Est-ce que ça veut dire que c'est que dans un centre de louange que ça doit arriver ? Non. Que nos vies deviennent des centres de louange et d'enseignement. Que nous puissions grandir, être libérés dans cette onction où nous avons une louange 24 heures sur 24 dans nos vies, dans nos bouches, dans nos maisons. que nous puissions nous repentir parce que nous n'avons pas réussi jusqu'à aujourd'hui et que cela devienne une réalité parce que Dieu veut l'établir dans notre nation. Amen. Je crois que Dieu va le faire au milieu de nous. Je crois que Dieu veut faire ce sang de louange et un sang d'enseignement au milieu de nous. Mais que cela commence dans nos vies et que nous nous exhortions les uns les autres, que nous encourageons les uns les autres et que tout le monde se dise qu'il est le même que les autres, le même sacrificateur avec la même onction. Chacun avec sa fonction différente, peut-être, certainement. Avec un appel qui lui est propre, certainement. Mais le principe de base est le même pour tous. Nous en sommes tous au même point. Amen. Alléluia, papa. Vous avez été touchés ce matin, je voulais vraiment le dire. Parce que quand on était en train de prier, Stéphane, il s'est mis à genoux ce matin. Et j'ai vu le sacrificateur. Et j'en ai pleuré. Je pense que le Seigneur nous appelle à nous mettre à genoux. Je proposerai simplement qu'on le fasse même maintenant. Je vous propose ceux qui sont prêts à se mettre simplement à genoux. Tu viens comme un sacrificateur avec ton souverain sacrificateur. Ton souverain sacrificateur a traversé les cieux. Il a traversé le tabernacle plus parfait que tous les autres. Celui qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est ton Père qui a créé le tabernacle qui est dans les cieux. Il t'a créé comme un tabernacle. Il te propose d'entrer dans les cieux avec lui. Il traverse les cieux, le Fils de Dieu en ce moment. Le Fils de Dieu est en train de traverser les cieux. Il est revêtu de gloire, de majesté, de puissance. Il vient avec son propre sang parce qu'il a souffert comme un simple homme, comme un sacrifice. Il a été crucifié et il entre dans les lieux saints et il traverse les cieux. Il est revêtu de gloire et de puissance. Les anges de Dieu s'inclinent. Les anges de Dieu l'adorent. Il vient avec son manteau de sacrificateur. Il vient avec son éphode. Il vient avec cet éphode où il a marqué tous les noms. Il a marqué les noms des milliards d'hommes. Il a marqué ton nom. Il a marqué le nom de ta famille. Il a marqué le nom de ta ville, le nom de ta nation. Et le Sauveur vient et il traverse les cieux. Redressé dans la majesté de sa force. Parce qu'il sait qu'il a ses rachetés avec lui. Et tu l'accompagnes, tu fais partie de la troupe qui l'accompagne derrière lui. Et il te dit, viens, marche comme j'ai marché. Traverse les cieux par la foi. Viens jusqu'à la présence de ton Dieu. Et là, tu es à genoux. Et tu intercèdes. Et ensemble, nous voulons intercéder. Parce qu'il y a des noms qui sont en train de monter dans nos cœurs. Il y a des noms qui montent. Ils ne font pas nous taire. Parce que nous sommes les intercesseurs. Parce que nous sommes appelés à bénir. Si nous nous taisons, qui va crier? Est-ce que c'est les pierres qui sont appelées à bénir? N'attendons pas que les pierres fassent ce que nous devons faire. Seigneur, nous venons à toi. Prononce le nom que tu as sur ton cœur. Prononce-le. C'est le temps maintenant. Prononce le nom que tu as sur ton cœur. À voix haute. Ne retiens pas ta bouche. Ne retiens pas ta voix. Ne retiens pas ta langue. Prononce, crie le nom qui est sur tes lèvres. Le nom qui est dans ton cœur. Tu es un intercesseur. Tu es un sacrificateur. Je prononce le nom du Japon. Japon, tu n'avais pas connu ton Dieu. Tu l'avais rejeté. Tu ne l'as pas connu. Et le Seigneur, il vient vers toi. Il désire pas te juger pour te détruire et te casser. Il désire que tu puisses revenir à la repentance et le connaître. Il veut que tu sois sauvé, Japon. Japon, c'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi, Japon, de connaître ton Dieu, le temps de ta visitation. Ton Seigneur, ton Dieu t'aime. Japon, tourne-toi vers ton Dieu, tourne-toi vers ton Sauveur. Japon, entends la voix de ton Seigneur. Entends la voix de celui qui est mort pour toi, de celui qui a donné sa vie. Japon, ne résiste pas à l'appel de ton Dieu. Koule baraki divinikaid. Koule divinikala marakaid. Libye. Côte d'Ivoire. Aaron, il était le souverain sacrificateur. À un moment donné, il y a une plaie qui est venue sur le peuple. Et Moïse a dit à Aaron, Aaron, prends le feu qui est sur l'autel. Cours au milieu du peuple. Aaron a couru. Et la plaie s'est arrêtée. Tu es ce sacrificateur. Le Seigneur prend du feu. Tu prends du feu sur l'autel de la présence de ton Dieu. Et tu cours à l'endroit où il y a la brèche, où il y a un jugement qui risque de s'écraser et de détruire. Et le Seigneur, il t'attend parce qu'il cherche les intercesseurs. Et tu cours et tu es là au milieu. Et tu lèves le bras. Et tu cries le nom de ce que tu as sur ton cœur. Et la plaie s'arrête. Vous savez ce qu'Aaron a vécu encore ? une chose terrible. Aaron, ses fils ont amené un faux feu, un mauvais feu. Et le feu du Seigneur est sorti sur les fils d'Aaron. Et ils ont consumé. Ils sont morts là. Et Aaron a dû se taire. Aaron s'est tué, il avait perdu ses deux fils. Et parce qu'il était sacrificateur, qu'il était loin, Moïse lui a dit, Aaron, tu ne peux pas parler maintenant. Parce que sinon, à cause de l'onction qui est sur ta vie, à cause du sacrifice de l'Éternel qui est saint, si tu réagis, si tu t'écroules ou si tu te mets en colère, tu vas mourir aussi. C'est le symbole de ce que Jésus a fait. Le Père a donné son Fils parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Il fallait qu'il meure. Et parce qu'il y a mort du Fils de Dieu, toi en tant que sacrificateur, tu tiens à la brèche. Et la seule chose que tu peux élever, ce n'est pas ta grandeur, ce n'est pas ta justice, ce n'est pas ta sainteté, ce n'est pas ton onction, ce n'est pas ton obéissance, ce n'est pas ta puissance. Tout ce que tu viens à peut apporter, c'est l'agneau de Dieu sacrifié. Et c'est parce que le Fils de Dieu a été crucifié que tu viens et que ta voix est entendue. Que ta voix est entendue. Parce qu'il s'est tué à la croix. Il est mort lui-même et il s'est tué. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas défendu. Parce qu'il savait que c'était un moment de sainteté. Il a été le souverain sacrificateur qui a perdu sa propre vie. Il était brisé dans sa propre chair comme Aaron. Et il s'est tué. Le Père s'est tué. Et parce qu'il s'est tué à l'heure de la croix, toi tu as le droit de parler aujourd'hui. Toi tu as le droit d'élever ta voix et de prononcer des paroles de vie, de salut, de grâce et de bénédiction sur les tiens et sur tous ceux qui t'entourent et sur les nations. Et ta voix sera entendue. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Seigneur, on te dit vraiment merci. C'est toi qui nous rassemble. C'est toi qui nous emmène. Tu es notre meneur. Tu es notre meneur. Tu es le chef de ta troupe. Et nous t'adorons. Tu es celui qui nous a rachetés. Nous t'aimons. Célébrons ton nom. Merci de tout ce que tu veux encore conduire et faire dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Nous sommes bien petits, mais tu es bien grand. Et je te loue parce que tu ne nous gardes pas petits. Tu nous rends semblables à toi. Tu nous fais marcher comme tu as marché, vivre comme tu as vécu, respirer comme tu as respiré, penser comme tu as pensé, aimer comme tu as aimé. Seigneur, nous voici. Tu dis dans ta parole, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous savez que c'est ce que Jésus est en train de dire aujourd'hui. Il est en train de dire, me voici, papa, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Regarde, ils sont là, mes enfants. Papa, me voici, moi et les fils et les filles que tu m'as donnés. Regarde mes sacrificateurs. Regarde leur cœur, regarde le travail que j'ai fait dans leur vie. Je les ai portés sur des ailes d'aigle. Je les ai attirés jusqu'à moi. Je fais d'eux un royaume de sacrificateurs. Je les ai revêtus d'onction, de justice. Je les ai revêtus de sainteté. Ils viennent avec des vêtements royaux, les vêtements de sacrificateurs qui leur vont si bien. Seigneur, regarde-les. C'est moi et les enfants que tu m'as donnés. Papa, merci parce que tu entends notre intercession. Papa, merci parce que tu es en train d'agir. Tu es en train d'étendre ton bras. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa.
Alléluia. Merci, Franck. Voilà. Il y a deux choses qui sont importantes. Hein, c'est connaître Dieu et connaître qui nous sommes en Dieu. Et merci pour ce rappel que nous sommes des sacrificateurs ce matin.